J'ai couru du quai, bassin numéro 3, je suis maintenant le chantier du GIP. Ben, vous savez, là, avec Yann Moffret, là, vous avez vu, bien sûr, déjà une page ou deux sur ses travaux. Et là, c'est autre chose, car il va y avoir dimanche.
Dimanche, donc, la remise à l'eau du Marie Fernand, un cotre pilote du Havre fabriqué en 1894 et qui va ressortir très rénové, refondu et en parfait état du chantier du GIP, où il est depuis l'été 2004 en restauration. Et là, ça va être la remise à l'eau. Donc, ce bateau maintenant.
C'est quelle date en fait qu'il va à l'eau ?
Il va donc à l'eau le 13 juillet aux alentours de 14h. Hein. Donc en face du chantier du GIP, quai Malmer. Donc la restauration de la coque est achevée. Et ce bateau va reprendre son activité de musée vivant, de mémoire vivante du pilotage du Havre. Donc ces bateaux sont fameux pour diverses raisons. D'abord, ils sont d'une grande élégance. Ils sont réputés rapides et relativement faciles à manier pour l'époque. Ce sont des bateaux qui remontent bien au vent, car leur fonction était d'aller chercher les bateaux de commerce aux confins de la Manche.
Époque à peu près ?
Ça c'est à la fin du 19e siècle, un petit peu avant la guerre de 14, donc 1894. Et puis ce bateau en fait aura une relativement courte carrière au pilotage, puisqu'il est désarmé en 14 avec les autres pilotes. Et ça c'est la fin en fait du pilotage à voile. Donc des bateaux fins, marchant assez bien auprès pour sortir de la Manche et aller au-devant des gros navires de commerce. Essentiellement des vapeurs à cette époque-là. Mais il reste encore quelques trois-mâts et bateaux de charge à voile qu'il faut, rentrer en baie de Seine et amener en sécurité dans le port du Havre. Et c'est la lourde tâche des pilotes. On s'imagine bien qu'embarquer sur un cotre un peu par tous les temps, se porter à la rencontre d'un gros navire de commerce, en prendre le commandement, car à cette époque-là, le pilote prenait réellement le commandement et la responsabilité du navire. Donc on imagine bien ce pilote qui débarque à l'aide de sa pilotine, qui va embarquer dans le gros bateau.
Avec
l'échelle de pilote, et à l'époque c'était vraiment une échelle, et avec des risques certains, parce que le transbordement est dangereux. Et là, ce gars qui a sa connaissance avec lui, une grande expérience en général, il prend donc le commandement aussi bien d'un trois-mâts que d'un vapeur, et il va en apprécier les capacités de manœuvre, jauger un peu l'équipage, l'état du navire, et va prendre les décisions les plus sûres pour amener le bateau en sécurité au port du Havre, et bien sûr être payé en fonction du tonnage ramené à quai.
C'était à la prime en fait.
Oui, c'est le tonnage mis à quai.
Et ils allaient loin ? Ils allaient chercher loin ces bateaux ?
Ils avaient une zone relativement importante, donc la limite nord c'est le Pas-de-Calais, le Cap Griné en fait, oui. Et la limite sud c'est une ligne qui est très connue maintenant, c'est la ligne entre le Cap Lizard et Ouessant, que bien des coureurs traversent pour gagner des courses transatlantiques. Donc cette zone est relativement importante, mais il faut bien voir que quand on a affaire à un gros navire, à l'époque tous les navires ne manœuvraient pas comme maintenant, il faut effectivement que le pilote prenne en main ce navire et de façon à pouvoir le piloter utilement et de façon sûre. Donc la zone est intéressante. Et puis il faut dire aussi qu'à cette époque-là, les pilotes du Havre étaient en concurrence. Donc en allant chercher loin les navires, et avec quelques renseignements, ils avaient quand même de bonnes chances de tomber sur le bon navire à servir, c'est-à-dire le plus gros possible. Donc cette affaire de concurrence, elle est intéressante dans le sens où les pilotes ont toujours cherché à être les meilleurs, donc à gagner un petit peu plus de sous. Et pour ça, il fallait être le premier à servir les navires, servir, c'est-à-dire aller à la rencontre et proposer ses services aux navires. Et on avait donc intérêt à avoir des bateaux bon marcheur, pour ne pas perdre de temps pour aller sur zone.
Et donc c'est un peu comme ici, là, au large de la mer d'Iroise, là. Ils étaient pêcheurs, et en fait, de la terre, il y avait des signes pour indiquer à ceux qui étaient en mer qu'il y avait un bateau qui arrivait. Donc le premier qui accostait avait gagné la droite. C'était un peu comme ça, chez vous ?
Ah, tout à fait. D'ailleurs, c'est très strictement réglementé. Donc le pilotage du Havre date de François Ier, en fait. Hein. À l'époque, c'était le port d'Harfleur. Et puis petit à petit, on a créé un port qui était destiné à être un port de guerre, le port du Havre. Mais il était guère pratique comme port de guerre parce que bon, c'est dans un estuaire avec les limons et les bancs qui se déplacent. Donc c'était pas trop facile, pas toujours de tirant d'eau, un courant assez fantastique de la Seine et des problèmes de marée qui rendaient l'exploitation militaire du port relativement difficile. Mais pour des bateaux de charge, ça pouvait encore le faire. Et puis, on risquait pas. Le bateau militaire pouvait être coincé au Havre. Pour le bateau de charge, c'était peut-être un peu moins grave. Et on a progressivement fait évoluer le port vers un port ouvert 365 jours par an et 24 heures sur 24.
Mais ce que tu ne sais pas, peut-être, c'est qu'en fait, le Havre nous a piqué ici, au port militaire, au port de Brest, le réseau passager transatlantique.
Ah, tout à fait. C'est tout de même un peu plus tard.
C'est ça, voilà. Et donc, maintenant, pour venir loin de ce bateau, c'est le Marie...
Le Marie Fernand,
c'est
oui.
C'est ça, voilà, qui va être bien à l'eau. Comment vous l'avez acquis? Comment ça se fait? C'est un coup de cœur? Apparemment, c'était une épave, si j'ai compris.
Oh, c'est une longue histoire. Bien avant même de savoir que ce bateau existait, il y a eu une association au Havre qui s'est créée de gens qui étaient des amoureux des pilotes, des contre-pilotes du Havre, parce que, belles histoires de bateaux, des bateaux bon marcheurs, des bateaux élégants, donc un peu mythiques. Et une équipe s'est constituée autour de l'idée de soit de reconstruire, soit de retrouver un pilote s'il en restait. À l'époque, on pensait qu'il n'y en avait plus. Donc, cette association secrète. Et puis, tout d'un coup, l'information passe qu'il resterait un vrai pilote du Havre qui serait à Salcombe en vente. Donc, ils réunissent les quelques subsides dont ils disposent et ils se portent acquéreurs un peu au hasard d'une coque bien, bien fatiguée. Et ça, c'est en 1985. Passerait la recherche toujours laborieuse des fonds et des motivations locales. Toutes les énergies sont fédérées et Norbert Chapelle, le président fondateur de l'association, fait une petite expédition à Salcombe avec quelques amis membres de l'asso. Et là, sans avoir trop de sous d'ailleurs, ils achètent le bateau avant même de savoir s'ils pouvaient le financer. Donc, c'est un peu côté aventurier. Mais des gens très décidés, et finalement on ramène le bateau à la remorque d'un bateau de pêche, et puis là on entame une période de restauration un petit peu longue, et le bateau ne sera réellement navigant remis comme un vrai pilote du Havre, hein, avec ses 250 mètres carrés de toile, sa mâture un peu ambitieuse. Donc remis en état, il sera effectivement en état qu'en 89, où on va remonter la Seine sous les bravos de la foule, il faut bien le dire, et pour aller à l'Armada de Rouen de 89, qui est resté un grand événement dans notre assaut.
Mais là, il est venu ici, pourquoi alors, puisqu'il était déjà effectivement navigant?
Alors, cette restauration de 85, c'était une restauration, je dirais, une restauration légère. On avait fait strictement le nécessaire, en fonction des moyens de l'époque, pour le rendre navigant et pour le faire perdurer. On avait à cette époque-là pas vraiment de certitude sur la vie de l'association. Un bateau en bois qui avait quand même à l'époque 90 ans. 90 ans pour un bateau en bois, c'est exceptionnel. Mais tout le monde se disait on va essayer de le sauver le plus longtemps possible. Et voilà, donc à cette époque-là, on avait fait une restauration relativement légère. Et puis l'association a pris de l'ampleur. On a petit à petit réussi à le faire classer monument historique, ce qui a généré quelques finances, bien sûr. Et là, le projet, soit de reconstruire un bateau à l'identique, soit de le restaurer, s'est fait jour petit à petit. Et on s'est orienté vers une restauration complète de la coque.
Donc, comment vous êtes venu au GIP alors?
Ah, comment on est venu au GIP? Bon, c'est une longue histoire. Donc, les monuments historiques de Normandie qui chapeaute un peu cette restauration. On leur a fourni à ce moment-là des divers devis et sur des avis, sur la réputation, sur la qualité du devis aussi. Il nous a semblé que notre meilleur interlocuteur, ça devait être le chantier du GIP, qui nous assurait une grande expérience et aussi une belle sécurité en ce qui concerne la qualité des bois. Et aussi, bon, on est venu voir et on connaissait quelques bateaux restaurés par le GIP, on savait que c'était une maison de confiance.
Et quel effet ça va vous faire pour quand il va aller à l'eau ce bateau?
Ben, c'est sur la vie du bateau, 114 ans, évidemment, ça va être un événement complètement exceptionnelle, hein, mais c'est malgré tout qu'une journée dans une très très longue vie, mais c'est une journée particulière.
Dans la foule.
Et il y a la foule, c'est vrai, il y a la pression du public et des médias, on est bien d'accord. Mais pour nous, ça reste une belle étape, mais ça reste quand même qu'une étape, parce qu'on sait qu'il y a autre chose derrière. Il y a le bateau, la coque est finie, mais... Il y a encore beaucoup de choses à faire autour, la voilure, la motorisation, les équipements de navigation, parce qu'il faut quand même qu'on navigue en sécurité. Oui. C'est pas tout d'avoir le plus beau bateau du monde si on met dans des cailloux. Voilà. Donc, alors pour nous, c'est une étape importante, c'est une fête, ça va faire du bien à l'assaut, parce qu'effectivement, c'est un pas de franchi, mais ça reste quand même qu'une étape, il va falloir qu'on continue. Et bon, pour l'instant, place à la fête, place au bonheur, mais on va continuer à travailler.
Et comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Eric Grémond, donc membre de l'assaut depuis 1988.
Une bonne tête, merci.